Ils continuèrent de marcher, s'autorisant quelques secondes de silence pour franchir un bloc de rocher. Ils progressèrent sous le soleil pendant une trentaine de mètres, avant de rejoindre à nouveau l'ombre du maquis. Kassanu reprenait son souffle tout en posant avec précaution sa main sur les pierres plates et chaudes. « Et s'il avait raison ?» pensa Clotilde. Kassanu avait martelé ses arguments avec une telle sincérité. « Et si les avocats ne servaient qu'à démolir avec mauvaise foi des démonstrations imparables ? À faire passer les évidences pour des coïncidences ? À ébranler les convictions par l'émotion ? Elle, plus encore que n'importe quel autre avocat. « Je n'ai jamais eu aucun doute, » continua Kassanu comme s'il lisait dans ses pensées. « Ta mère fut la seule à décider de qui devait monter ou non dans la voiture ce soir-là. Ta mère possédait un mobile, plusieurs même, l'amour, l'argent, ses enfants. Ta mère allait rejoindre son amant ce soir-là. Ta mère s'est accusée elle-même en vous protégeant, mais elle n'avait pas d'autre choix. » Il se retourna et pour la première fois prit la main de sa petite fille. Celle de Kassanu était ridée et légère, comme vidée de ses chairs et de son sang. Une écorce de chêne liège. « Je t'assure, Clotilde, j'ai cherché d'autres coupables possibles, d'autres explications, mais aucune n'était crédible. » Enfin, Clotilde s'exprima. « La culpabilité de ma mère n'est pas davantage une piste crédible. » Kassanu soupira. Il parvenait devant un champ défriché où broutaient quelques chèvres en liberté. « Et voilà, Clotilde, voilà pourquoi je ne voulais pas d'avocat. Voilà pourquoi je voulais une véritable justice. Celle de ce pays aurait raisonné comme toi. Aucune preuve, donc aucun coupable, aucune condamnation. La justice de ce pays aurait bouclé l'affaire ainsi, sur un crime impuni. L'assassin de mon fils et de mon petit-fils aurait continué à vivre tranquillement, impunément. Comment aurais-je pu accepter ça ? Le jury d'Arcanou devait condamner celui contre qui le plus de preuves s'accumulaient. Et le jury d'Arcanou n'a pas hésité. Il a voté à l'unanimité. Ta mère était coupable. Personne n'en a jamais douté. Mon Dieu. Clotilde sentait son corps trembler de froid. Son sang charriait des glaçons, que le soleil, à son zénith, entre les maigres branches de bruyère et d'arbousier, faisait fondre, brûlant sa peau, glaçant ses veines. Devant eux, la prairie s'ouvrait. Kassanu s'assit un moment sur un cairn de granit. Clotilde se souvenait. Elle venait souvent ici, petite, dans la plaine de Paoli. On racontait que l'indépendantiste avait fait enterrer ici un trésor de pièces d'or, celle qu'il avait fait frapper à Corte, un peu avant la Révolution, alors que la Corse n'était plus italienne et pas encore française. Un trésor qui servirait quand l'île deviendrait vraiment indépendante. Personne n'avait retrouvé le moindre coffre, la moindre pièce. Une légende, une rumeur, mais des preuves, jamais. « Le jury d'Arcanou, » continua Papé, « a reconnu la culpabilité de ta mère. En d'autres temps, ceux décrits par Mérimée, du temps de Colomba ou de Matteo Falcone, on aurait exécuté Palma. » Sa main de liège, telle une éponge qui sèche, se raidit dans celle de Clotilde. Il y a 27 ans, je l'aurais condamné à mort sans aucune hésitation. Mais d'autres s'y sont opposés. Lisabeth à la première, Basile également. Palma restait malgré tout un membre de notre famille, une Idrissi, la mère de notre petite fille. Et puis, c'était l'argument de Lisabeth, ta mère n'avait pas avoué. Et si un jour on apprenait une autre vérité ? Basile a avancé un autre argument pour la sauver. Il prétendait qu'on ne pouvait pas être moins civilisé que la justice des Français, qui ne condamnait plus à mort même les pires criminels. Alors la sentence a été appliquée. La prison à perpétuité. Ça ne manquait pas de coin au-dessus d'Arcanou, dans le maquis, pour y enfermer quelqu'un toute une vie. D'ailleurs, ta mère n'a pas protesté. Même si elle n'a jamais avoué, elle ne s'est jamais défendue. Elle n'a jamais cherché à se sauver.
Jusqu'à aujourd'hui, pensa Clotilde. Lors de ce simulacre de procès, sa mère venait de perdre son mari, son fils, dans une voiture où elle aurait dû se trouver. Seule, traumatisée, accusée, acculée, rongée de culpabilité, Quelle force lui restait-il pour se défendre? Elle avait tout perdu ce soir-là. Tout perdu, sauf sa fille. Clotilde allait parler, mais Cassanou fit glisser sa main pour la poser sur son épaule.
« Je ne suis pas un monstre, Clotilde. Ta mère n'a perdu que la liberté. C'est tout ce qu'elle a eu à payer. Le même prix que n'importe quel voleur, n'importe quel violeur ou assassin. Mais pour le reste, elle n'a pas été maltraitée. Au contraire, elle l'a été bien mieux que tous ces détenus qui s'entassent à la prison de Borgo. Je peux t'affirmer que les repas préparés pour elle par Lisabetta étaient meilleurs que ceux de la cantine d'un centre de détention. Que son geôlier, Orsou, était plus respectueux que les matons de la prison. Que son chien, Pacha, était plus affectueux que les bergers allemands dressés pour tuer. Nous ne sommes pas des monstres, Clotilde. Nous ne voulions que rendre la justice. »
Clotilde se recula d'un pas. « Et maintenant ? Maintenant qu'elle s'est enfuie ? Qu'est-ce que tu vas gagner ? Elle va courir chez les flics vous dénoncer. » Cassanou sourit en secouant la tête.
« Si elle l'avait fait, la police serait déjà là. » « Non, ma chérie. Ta mère n'a pas couru à la gendarmerie pour raconter son histoire invraisemblable. Séquestrée pendant des années dans une cabane de berger, elle n'est pas allée nous dénoncer et pourtant, c'est ce qu'aurait fait n'importe quel otage, tu es d'accord ? Une preuve de plus, Clotilde. Une preuve de plus de sa culpabilité. »
Ses yeux zigzaguèrent, cherchant à capturer ceux de sa petite fille.
« On va la chercher. On va la retrouver. Tu pourras lui parler. Un Corse peut disparaître des années dans le maquis, mais pas une étrangère. Pas une étrangère qui n'a pas mis un pied dehors depuis 27 ans. »
Un instant, en croisant leurs regards, Clotilde imagina qu'ils pensaient la même chose. Peut-être Palma était-elle tout simplement repartie, comme ce 23 août 1989, là où elle n'était jamais arrivée, dans la même direction, vers la même maison, retrouver l'homme qui vivait là-bas, Natale Angeli. Après tout, il habitait toujours la Punta Rossa.
Viens, fit Cassanou, on retourne à Arcano.
Ils rebroussèrent chemin en silence, passèrent l'arbre pendu, le rocher des fédérés, en respectant un recueillement calculé par Cassanou pour lui laisser le temps d'admettre l'inadmissible, de croire l'inimaginable. Les images défilaient dans la tête de Clotilde. Sa mère enfermée, l'amitié qui petit à petit grandit entre elle et Orsou, le garçon silencieux chargé de lui apporter à manger. Ce chiot qui naît et qu'elle propose de baptiser. Des morceaux de conversation qu'elle surprend sûrement. Quelques paroles échangées avec Lisabetta, peut-être. Et après toutes ces années de vie dans sa chambre noire, seulement éclairée de Bételgeuse certains soirs, elle apprend que sa fille revient en Corse. Elle se sert d'Orsou comme messager, lui confie quelques mots griffonnés. Suffisant pour fournir à sa fille la preuve qu'elle est vivante, puis le charge de dresser une table de petit-déjeuner identique à celle d'il y a 27 ans. Puis de la mener, à minuit, jusqu'à sa prison. Pour la revoir, simplement la revoir. Pas pour la mettre en danger. Quel danger ? Quel secret cachait sa mère ? Jamais elle n'aurait égorgé Pacha. Jamais elle ne se serait sauvée au moment de la retrouver. Jamais elle n'aurait touché à la barre de direction de cette voiture. Jamais elle n'aurait pu mettre en danger la vie de ses enfants, les tuer, même par accident, ce soir du 23 août. Une seule information comptait, au fond, parmi toutes celles, plus insensées les unes que les autres, qu'on lui avait jetées à la figure aujourd'hui. Sa mère était vivante. Campa sempre. Maintenant, c'était à elle de jouer. C'était son métier. Prouver son innocence. Cassanou accélérait le pas, peut-être parce que le sentier descendait en pente douce jusqu'à Arcano, peut-être parce qu'il avait libéré sa conscience et qu'il ne pensait plus maintenant qu'aux quatre assiettes et aux figatello qui l'attendaient. « Pas si vite, papé, » pensa Clotilde. « Pas si vite. Ta petite fille risque fort de te couper l'appétit. » Elle posa une main sur celle de son grand-père, celle qui tenait la canne. « Papé, et s'il existait une autre piste, un autre coupable possible ?» Cassanou ne s'arrêta pas, força peut-être encore davantage l'allure.
« J'avais raison, » se contenta-t-il de répondre. « Mieux valait régler ça sans avocate. »
Elle força l'ironie dans sa voix. « À qui la faute ? C'est à toi que je dois ma vocation. Souviens-toi, il y a 27 ans, en haut du Capo di Abetta. Peut-être que tout était écrit. Peut-être que tu m'as donné l'idée de devenir avocate, uniquement pour que des années plus tard, je te prouve que tu as commis la plus grande erreur de jugement de ta vie. Ça ne fit même pas sourire Papé.
On a suivi toutes les autres pistes, Clotilde, crois-moi.
Même celle de Cherbonne et Spinello? Cette fois, le rythme des pas de Cassanou, entre sa canne et son pied droit, se désynchronisa.
Cherbonne et Spinello? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Il avait 14 ans à l'époque.
17 ans.
17, si tu veux. Ce n'était qu'un gamin. Quel rapport avec le sabotage de la Fuego? C'est ça, la méthode des avocats du continent. Choisir un type mort depuis quelques heures et tout lui coller sur le dos.
Clotilde ne se laissa pas impressionner. Il continuait de marcher. On apercevait la cime du chêne d'Arcano. Avec son grand-père, comme avec tous les autres hommes, il fallait bluffer. Cherbonne était au courant pour ma mère, n'est-ce pas, Papé? Pour son procès, pour sa condamnation à perpétuité. Cherbonne vous a fait chanter.
Cassanou leva les yeux au ciel. Ça n'a rien à voir avec le sabotage de la voiture. Mais oui, des années plus tard, Cherbonne a entendu Basile, son père, en discuter avec un autre juré d'Arcano. Depuis toujours, cette fouine de Cherbonne écoutait tout. Après la mort de son père en 2003, quand il a hérité du camping, il ne m'a pas fait chanter, comme tu dis. On n'emploie pas ces mots-là ici. Ce sont des mots à se retrouver criblés de balles à la terrasse d'un bar. Il m'a simplement fait comprendre qu'il était au courant. Nous n'avons même pas eu besoin d'en discuter. Nous connaissions tous les deux les termes du pacte. S'il parlait à un flic, à un journaliste, à n'importe qui, alors je risquais la prison. Moi et toute ma famille. Et cela revenait à laisser à l'abandon la propriété d'Arcano. Cherbonne m'a simplement demandé de lui laisser bâtir quelques hectares, de rénover les œufs Proct en agrandissant le restaurant, en construisant des sanitaires supplémentaires, des chalets finlandais, des bungalows, une paillote sur la plage de l'Oche Lucia, quelques terrains qui continuaient de m'appartenir mais qu'il exploitait. Pour celui de la marina Roc e Mare, il l'avait acheté, mais demandait, disons, ma protection. Entre l'honneur de la famille et quelques hectares bétonnés, il savait pour quel choix j'opterais.
Si ce n'est pas du chantage, ça porte quel nom?
Une négociation. Cherbonne savait qu'il ne risquait rien de moi. Il était le fils de mon meilleur ami.
Alors ce n'est pas toi qui l'as fait assassiner? Cassanou roula des yeux étonnés. Ils avaient atteint la cour d'Arcano. Et le chêne projetait sur eux son ombre disproportionnée.
Non! Pourquoi aurais-je commandité un tel meurtre? Cherbonne et Spinello étaient ambitieux, peu scrupuleux, avec le sens des affaires plus que de la terre, mais il aimait la Corse, à sa façon. D'une autre façon, d'une autre génération. Peut-être même que pour le béton, c'est lui qui avait raison.
Clotilde ne releva pas. Son papé était comme les autres, au fond. Un homme qui avait laissé filer en chemin ses illusions. Parce que le monde tournait trop vite, une gigantesque machine a essoré les utopies. Elle hésita, puis renonça, dans l'immédiat, à donner davantage de détails sur sa version. Cherbonne et Spinello qui dévissent l'écrou de la rotule de direction de la Fuego parce qu'il est persuadé que ce soir-là, Paul et Palma Idrissi ne la prendront pas. Qu'ils monteront comme prévu par le sentier dormir à la Casa di Stella. Parce que celui qui doit conduire la voiture ce soir-là, même si aucun adulte n'est au courant, c'est Nicolas. Nicolas accompagné de Maria Chiara. C'est eux dont l'assassin voulait se débarrasser. Par envie, par jalousie, par dépit. Cette hypothèse, ni Cassanou, ni aucune personne de plus de 18 ans n'aurait pu l'échafauder. Les secrets d'un groupe d'ados sont plus difficiles encore à percer que ceux d'un village corse frappé d'omerta. Ils traversèrent lentement la cour de la bergerie, contournant les parterres d'orchidées plantées par l'Isabetta. Contrairement à ce que Clotilde avait cru, Cassanou ne se précipita pas vers la cuisine, mais s'assit sur le banc, celui sur lequel elle s'était endormie avant l'accident, il y a 27 ans. Non, continuait-elle de raisonner. Personne n'aurait pu deviner ce qui s'était joué dans ce groupe d'adolescents cet été-là. Personne. Aucun témoin. Aucun adulte. À moins que... Clotilde regardait Cassanou respirer lentement sur le banc. Papé ressemblait à un chat. Un gros chat endormi, qu'on croit fatigué, amorphe, incapable du moindre effort, et qui pourtant réagit et bondit au moindre signe de danger. Rapide, précis, sans pitié. Lisabetta était sortie de la bergerie et s'approchait, inquiète. Speranza demeurait sur le seuil, vigilante.
« Ça va, Cassanou ?»
Le vieux Corse ne répondit pas. Il fermait doucement les yeux, laissant le soleil le pousser au sommeil. « Mais oui, confirma-t-il d'un signe de tête. Ça allait. Une canne, un chapeau, sa bergerie, son chêne, sa tribu. À moins que... » Les pensées de Clotilde s'affolaient. Elle se tenait là, à la place de Cassanou quelques minutes avant l'accident. Elle s'était endormie. Elle écoutait la Mano Negra. Elle avait griffonné quelques derniers mots, avant que son père ne la force à monter dans la Fuego. À moins que... Aucun adulte n'aurait pu deviner les drames qui se jouaient parmi les adolescents cet été 89. À moins que l'un d'eux n'ait lu son journal. Mamie Lisabetta s'avança, passa une main sur son épaule, rassurée par l'état de santé de son mari. Elle se pencha vers l'oreille de sa petite fille, comme si elle avait un secret à lui confier, comme si elle avait lu dans ses pensées.
« Le soir de l'accident, ma chérie, sur ce banc, tu avais oublié ton cahier. Eh bien... »
Elle n'eut pas le temps de continuer. Le téléphone de Clotilde vibra dans sa poche. « Franck ! Enfin !» Clotilde s'éloigna d'un mètre. « Franck, tu es rentré ?» La voix de son mari était hachée, haletante. On aurait pu croire qu'il avait couru ou que le vent soufflait autour de lui. Il ne s'était pas parlé depuis 2 jours, mais il ne s'embarrassa d'aucun bonjour.
« Valou est avec toi ?»«
Non, pourquoi ?»«
Je suis aux The Proct, à l'accueil avec Annika. Tu as laissé un message, t'as demandé à Valentine de monter à Arcano en urgence. »
Le sol se déroba sous ses pieds. Clotilde se retint au banc pour retrouver son équilibre.
« Ce n'est pas moi, Franck. Je n'ai jamais rien envoyé. »« Ton grand-père, alors ? N'importe qui à Arcano ?»
Je sais pas, c'est étrange. Attends, je vais demander. Clotilde se planta devant Lisabetta, mais avant même qu'elle puisse l'interroger, sa grand-mère parvint à terminer sa phrase.
Le soir de l'accident, ton cahier, c'est moi qui l'ai ramassé.